Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Jouffroy.
La destinée de Jeanne d'Arc est simple, sublime, mais aussi étrange. Et cette figure singulière, qui est née en 1412, ou plutôt vers 1412, est morte en 1431, est pas toujours facile à appréhender. Philippe Contamine, de l'Institut de France, Olivier Bouzy et Xavier Hélary, tous trois historiens médiévistes, publient un ouvrage intitulé « Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire » dans la collection bouquins aux éditions Robert Laffont. Il s'agit d'une somme magistrale et unique en son genre, placée sous l'autorité de Philippe Contamine, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne, ancien directeur du Centre Jeanne d'Arc d'Orléans, dont les travaux portent sur la guerre, l'État, la noblesse, l'économie et la vie privée entre le XIIIe et le XVe siècle. Et nos auditeurs, qu'ils connaissent bien, peuvent écouter une des émissions précédentes de Philippe Contamine sur Jeanne d'Arc au sujet du procès en nullité de la condamnation. Olivier Bouzy, retenu malheureusement aujourd'hui par ses occupations professionnelles à Orléans, est docteur en histoire et directeur adjoint du Centre Jeanne d'Arc. Xavier Hélary, agrégé d'histoire, docteur en histoire et maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy et nous regrettons bien l'absence d'Olivier Bouzy, mais nous comprenons bien aussi ses raisons. Le profond renouvellement de l'historiographie pour la fin du Moyen-Âge vous a incité à faire ce livre, mais fondamentalement, Philippe Contamine, pourquoi ce livre et pourquoi cette équipe ?
Pourquoi ce livre, pourquoi cette équipe ? C'est un petit peu le hasard. Le hasard et la destinée. Je me suis intéressé, lorsque je faisais ma thèse d'État, guerre, État et société à la fin du Moyen-Âge, je ne me suis pas beaucoup intéressé à Jeanne d'Arc. J'avais laissé de côté cet immense sujet qui m'effrayait un peu. Et puis il se trouve qu'en 1971, on m'a demandé une conférence à Rouen sur Jeanne d'Arc et j'avais choisi comme thème les armées anglaises et françaises au moment du siège d'Orléans. De façon à savoir ce qu'on peut savoir quant aux effectifs, quant au recrutement, quant à la nature sociale et nationale de ces armées. Et puis j'avais laissé un petit peu le sujet de côté, et il se trouve qu'en 1979, vous voyez que ce n'est pas d'hier, il y a eu un colloque à Orléans organisé par Régine Pernoud, avec le patronage de la ville d'Orléans, le maire Jacques Douffiac, récemment disparu du reste, sur Jeanne d'Arc, une époque, un rayonnement. Et donc, on m'a demandé une communication, j'ai pris la parole, j'ai posé la question, la guerre de 100 ans est-elle une guerre juste ? Et donc, c'est un problème. Est-ce que Jeanne d'Arc a mené une guerre juste selon les critères de ce temps ? Alors, Jacques Douffiac a dû être attiré par il a reçu cet exposé de façon favorable, parce que quelques temps après, Régine Pernoud s'étant retirée, il m'a demandé de prendre sa succession au sein de Jeanne d'Arc. C'est ainsi que je l'ai dirigée de 1985 à 1990. Et depuis ce temps-là, je me suis investi, je ne dirais pas uniquement, mais beaucoup, dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors, Olivier Bouzy a été recruté à l'époque où j'étais directeur, et puis ensuite Xavier Hélary, qui est un jeune et brillant normalien, qui a fait sa thèse sur les armées des rois de France à l'époque de Philippe III et de Philippe IV, a bien voulu se joindre à notre équipe. Vous voyez que c'est une équipe qui est soudée.
Pour Jeanne d'Arc, les écueils auxquels les historiens sont confrontés doivent être nombreux. Quels sont les écueils que vous avez dû éviter ?
Je pense que l'écueil principal est le suivant. L'historien, il doit expliquer. Or, il y a quelque chose d'inexplicable dans Jeanne d'Arc. C'est ça, fondamentalement, la difficulté. Alors, on peut naturellement présenter une Jeanne d'Arc, disons, un petit peu réduite à l'essentiel, aux événements auxquels elle a participé, mais le fond de l'affaire a quelque chose de mystérieux. Alors donc, il faut à la fois montrer que Jeanne d'Arc s'inscrit parfaitement dans son temps, d'un point de vue matériel, d'un point de vue de l'imaginaire, la culture, etc. Et puis en même temps, je le crois, en tout cas, à force de creuser, j'en suis convaincu, il y a la pucelle d'Orléans, comme on a dit à partir du XVIe siècle, quelque chose d'unique. Et donc, comment l'historien peut-il travailler avec ses méthodes sur un phénomène unique ?
Bien sûr que tout ça, ça pose des questions à tous les historiens depuis très longtemps et de nombreux livres ont été publiés. Mais Xavier et Larry, quelles sont les nouveautés dans l'historiographie, les nouvelles connaissances, les nouveaux angles d'attaque qui ont incité votre équipe à faire ce livre?
Alors, il s'agissait peut-être avant tout de faire un point sur l'ensemble des connaissances qui étaient disponibles sur Jeanne d'Arc. Et donc, notre objectif a été une vue englobante, finalement, de tout ce qui concerne Jeanne d'Arc. Et assez curieusement, cet exercice n'avait pas été fait jusqu'ici. C'est-à-dire que sur bien des points, on dépendait, y compris du point de vue événementiel, on dépendait des récits qui avaient été faits au XIXe siècle. C'est particulièrement le cas pour le siège d'Orléans, dont je me suis particulièrement occupé dans le livre. Le récit du siège d'Orléans, je pensais qu'il était bien connu. Alors, il y avait le livre de Régine Pernoud dans la collection « Les 30 journées qui ont fait la France », mais il y avait aussi des articles de la fin du XIXe siècle. Mais je me suis rendu compte que finalement, le travail de récit, de reconstitution des événements pouvait être repris à nouveau frais en prenant en compte l'ensemble des sources. Et c'est un exemple des choses qui montrent que finalement l'histoire de Jeanne d'Arc n'est pas close, y compris du point de vue politique, du point de vue événementiel, du point de vue militaire, et qu'on peut travailler encore et de nouveau sur Jeanne d'Arc de bien des points de vue.
Justement, en parlant de la levée du siège d'Orléans et des sources que nous en avons, d'abord nous en avons plus que les contemporains, puisque nous avons pu consulter des documents que son entourage n'a jamais pu avoir sous les yeux. Et les documents auxquels je pense, c'est les lettres du roi à certaines villes qui annoncent la prise, c'est les documents financiers, des comptes, des documents notariaux, les écrits des Anglais, des Bourguignons. Tout ceci, c'est une façon nouvelle de pouvoir découvrir cette histoire d'Orléans et de la levée, de la prise d'Orléans.
Oui, disons qu'on peut avoir une vue un petit peu globale sur ce qui s'est passé en effectivement combinant les différents points de vue et en utilisant toutes les sources qui sont à notre disposition, y compris des sources comptables. Alors, assez difficile à utiliser, puisque les armées, à l'époque, ne sont pas aussi bien recrutées ou tenues qu'elles pourront l'être par la suite.
Philippe Contamine, vous, les sources que vous avez travaillées à tous les niveaux, quelles sont-elles ?
Les sources sont à la fois nombreuses et toujours insatisfaisantes. On aimerait toujours en avoir davantage. Il faut bien dire que la construction du corpus des sources concernant Jeanne d'Arc s'est faite très progressivement. Dès le XVIe siècle, dès la fin du XVIe, dès le début du XVIIe siècle, on s'efforce de rassembler des sources sur Jeanne d'Arc. Et puis le corpus est élargi, et puis au XIXe siècle, au milieu du XIXe, l'entreprise de Jules Quicherat, qui est tout à fait remarquable. Et puis depuis, il y a quand même eu des découvertes assez sensationnelles, notamment les lettres des marchands vénitiens installés à Bruges et à Avignon, des lettres qui, jusqu'à présent, étaient inconnues et qui sont strictement contemporaines. Donc ça me paraît être un point très important. Je dirais que depuis un siècle, finalement, le corpus ne s'enrichit guère. Simplement, je voudrais quand même signaler 5 découvertes, si vous voulez, assez rapidement. Premièrement, il y a, ça a été exhumé il y a 3-4 ans, un conte de certain Guillaume Charrier, qui était receveur général de Charles VII, un fragment de conte, qui est encore aujourd'hui insuffisamment publié et étudié, et qui porte exactement sur cette époque. Donc voilà une première découverte. Une deuxième découverte, un de mes élèves, Patrick Gilly, a découvert une lettre d'un humaniste italien écrite en septembre 1429 et qui montre le rayonnement de l'histoire de Jeanne d'Arc jusqu'au-delà des Alpes. Le troisième document sur lequel j'insiste, c'est un certain mémoire de Jean de Rinel, qui était le neveu de Pierre Cauchon et qui est conservé en Angleterre, insuffisamment exploité, j'en fais état dans Histoire et Dictionnaire, et qui montre le point de vue des Anglais vis-à-vis de Jeanne d'Arc. C'est un document qui, à mon avis, avait été insuffisamment mis en valeur. Et puis ensuite, il y a également, tout récemment, la lettre de convocation du duc de Lorraine, prétendu duc de Lorraine, Antoine de Vaudémont, au sacre de Henri VI. Donc ça a été découvert il y a un an. Et puis le dernier point, le manuscrit d'un certain Théodore de Lélis, qui était un canoniste au service du pape Borgia, Calixte III Borgia, et son document, son manuscrit est conservé à la Vatican et a été exploité par Paul Auriat, qui était un de mes confrères à l'Académie des inscriptions. Et là encore, c'est une découverte. Donc vous voyez que le corpus s'élargit, on peut espérer encore. Et puis d'autre part, je souligne deux choses. C'est le fait que ce que nous avons voulu faire, c'est aussi de classer chronologiquement les témoignages sur Jeanne d'Arc, de façon à voir la façon dont elle a été comprise, la façon dont elle a été reçue, à la fois dans son camp et hors de son camp, a pu évoluer pendant les 2 ans où elle a occupé la place que nous savons. Donc, les sources strictement contemporaines, classées chronologiquement, permettent, je crois, de renouveler nos perspectives.
Parmi toutes les sources que vous venez d'évoquer, il y a ces fameuses lettres des marchands vénitiens ou italiens, en tout cas. L'intérêt, c'est qu'ils ne sont pas partisans, eux.
Voilà, ils ne sont pas partisans. Et donc, quand ça a été découvert, publié par Lefebvre Pontalis dans les années 1900, par la Société d'Histoire de France, les historiens positivistes n'ont pas su très bien quoi en faire parce que c'est plein de rumeurs. Ce sont des bruits qui circulent, ce sont des impressions, etc. Mais je crois que ces rumeurs, ces impressions, la façon dont l'action de Jeanne d'Arc a été comprise, font partie pleinement de l'histoire. Et aujourd'hui, où nous avons quand même une vision plus large de la méthode historique, nous sommes en mesure d'accorder toute leur place et de montrer tout l'intérêt de ces témoignages exceptionnels qui, comme vous l'avez dit, sont des témoignages de neutres. Et même de neutres qui sont installés à Bruges, c'est-à-dire en plein territoire bourguignon.
Et en terre d'Empire, parce que j'ai lu en parcourant avec passion votre livre, que vous notiez bien que l'histoire de Jeanne d'Arc, pendant qu'elle se déroulait, 1429 à 1431, était connue, même en terre d'Empire, Xavier Hélary.
Oui, alors il y a effectivement la renommée de Jeanne d'Arc est arrivée très rapidement en terre d'Empire, notamment avec le chroniqueur Eberhard Windeke, qui livre un témoignage intéressant, puisque son témoignage est entrelardé de documents officiels. Donc il y a vraiment ici un témoignage intéressant, et on sait qu'il y avait d'autres sources ont traité de Jeanne d'Arc en terre d'Empire.
Le clerc de Spire, par exemple, qui a fait tout un traité qui s'appelle la Sibylla Francica, où il pèse le pour et le contre. Voyez-vous, c'est un traité strictement contemporain. Jeanne d'Arc a été connue à l'intérieur de la France, a été connue très rapidement en Italie, notamment dans le Milanais, pour des raisons de liaison avec le duc d'Orléans, etc., a été connue très rapidement en terre d'Empire. En revanche, il y a un certain déficit à l'époque même dans la péninsule ibérique. La péninsule ibérique a parlé de Jeanne d'Arc plus tard seulement.
Elle était occupée à la Reconquête, elle était peut-être un petit peu moins disponible. Mais pour voir aussi ce dont vous parliez pour les terres d'Empire, là encore, ce sont des sources qui cherchent à être neutres. Donc c'est plus intéressant que des sources bourguignonnes, quoique la vision bourguignonne et anglaise est toujours intéressante. Mais les sources qui cherchent à parler de ce qui ne les concerne pas directement, c'est toujours intéressant.
Et on n'est jamais tout à fait neutre. On
n'est jamais c'est pas possible.
Voilà. Donc, les Milanais, par le fait
que... Ah ça, les Milanais, c'est dynastique aussi.
Les Milanais, par le fait que le duc d'Orléans, à Valentine Visconti, etc., donc il y avait cette liaison, les Milanais sont naturellement assez favorables, n'est-ce pas? Et puis, d'autre part, en terre d'Empire, il y a Sigismond du Luxembourg, en rivalité avec le duc de Bourgogne. À partir du moment où le duc de Bourgogne n'aime pas Jeanne d'Arc, eh bien, naturellement, l'autre côté, Sigismond, est plus favorable. Donc, il n'y a pas de neutre absolu.
Et on a l'impression en plus que Jeanne d'Arc est plutôt un facteur de sympathie en fait en faveur du camp de Charles VII. Donc on a l'impression que Jeanne d'Arc joue plutôt, le personnage de Jeanne d'Arc est vu de façon plutôt favorable.
Oui, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, elle a réussi à transformer totalement la stratégie et le déroulement des événements marasmiques pour Charles VII qui sont devenus tout à fait différents grâce à elle. Mais en ce qui concerne après Jeanne d'Arc posthume, donc dans les siècles classiques, qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'a-t-on pris? Est-elle vraiment attachée aux Bourbons? Et après, Xavier Hélary, vous nous parlerez de la Révolution et puis des siècles qui suivent.
Il y a une idée qui est très répandue, qui à mon avis n'est pas vérifiée par les faits, c'est que Jeanne d'Arc a été oubliée au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle pour renaître au XIXe avec Michelet. Je crois que c'est une vue trop rapide des choses. Bon, je ne vais pas du tout diminuer l'importance de Michelet, son rayonnement, c'est extraordinaire, mais on peut dire que, à travers les siècles classiques, Jeanne d'Arc a été connue, suffisamment connue, à la mode du temps, où l'histoire n'avait peut-être pas le rayonnement, l'importance qu'elle a eue au XIXe siècle, et il y a eu un très grand nombre de publications sur Jeanne d'Arc, et des publications qui méritent la peine d'être regardées de près à travers toute cette époque. Alors, je crois qu'on peut présenter les choses ainsi, très rapidement. À savoir, premièrement, il y a un effort d'érudition de façon à regarder un petit peu les sources, y compris les deux procès, y compris les sources comptables, y compris les témoignages des chroniques, etc. Donc, on peut dire que Quichera, j'y insiste, n'a pas créé. Il s'inscrit dans une certaine tradition. Le deuxième point, c'est que Jeanne d'Arc a été comprise par les historiens orthodoxes comme faisant partie du légendaire de la royauté française. Bon, Jeanne d'Arc est la preuve à la fois tragique et éclatante, du fait que la Providence veille sur la survie à la fois du royaume de France et du roi très chrétien et de la succession des rois très chrétiens. Alors c'est quelque chose qu'on sent au XVIe, au XVIIe siècle. Estienne Pasquier, c'est encore très visible. Ça diminue un petit peu au XVIIIe sans disparaître complètement. Et puis à côté de cela, il y a ceux qu'on peut appeler les hérétiques, les hétérodoxes, qui estiment que Jeanne d'Arc est une fable inventée par les généraux entourant Charles VII, peut-être avec la complicité du roi lui-même, pour se tirer d'une situation calamiteuse. Et donc cette filière, la filière de la fable, de la fourberie, de l'intrigue, de l'astuce, est quelque chose qui, en contrepoint, peut être suivi à travers les siècles classiques.
Et alors, la Révolution, parce que Jeanne a subi des déprédations, je parle de la statue érigée sur le pont d'Orléans, mais en fait, elle n'est qu'une victime collatérale.
Alors au début, au moment de la Révolution, effectivement, elle va être un peu la victime collatérale de la lutte contre la monarchie et contre l'idée royale. Mais assez rapidement, cependant, son importance, c'est une jeune fille venue du peuple, finalement...
Du tiers-État.
Du tiers-État, voilà, qui prend le pouvoir à l'époque. Donc elle va être reconnue, son rôle va être reconnu sous la Révolution, sous l'Empire. Et en fait, c'est à partir vraiment sans doute du début, de la première moitié du 19e siècle, que le personnage de Jeanne d'Arc va devenir vraiment peut-être un personnage central, dans la continuité de ce que M. Contamine a dit pour la période moderne, donc avant la Révolution, c'est-à-dire un travail d'érudition, un travail d'historien, mené au premier chef dans des genres assez différents par Michelet, d'une part, qui écrit un livre merveilleux qui est encore finalement d'actualité aujourd'hui sur Jeanne d'Arc, dans son histoire de France, d'une part, et puis d'autre part, avec Jules Quichera, qui réunit les sources. Et le travail de Quichera, donc dans les années 1840, c'est la réunion en 5 tomes, en 5 forts volumes, de toutes les sources relatives à Jeanne d'Arc. Et c'est une entreprise qui, finalement, n'a pas tellement de précédents, et qui fait que Jeanne d'Arc est un personnage qui est particulièrement bien connu dès les années 1840, donc avant que ne commence vraiment le grand renouveau de l'historiographie. Et ça, c'est le premier point. Donc, les historiens, à partir du travail de Quichera, ne vont plus cesser de s'y intéresser jusqu'à aujourd'hui. Et d'autre part, il y a le fait que Jeanne d'Arc va devenir une héroïne liée vraiment au sentiment national, qui existait dès la fin du Moyen-Âge, mais qui, après la Révolution, prend une autre tournure, une autre ampleur. Et donc, Jeanne d'Arc va assez rapidement devenir une héroïne liée au sentiment national, liée à la nation, avec évidemment des disputes dans la revendication par les différents partis. Et le point qu'on peut noter, c'est que l'apogée du culte de Jeanne d'Arc, c'est sous la Troisième République, entre 1870 et 1914, en gros. Alors, la Troisième République se poursuit ensuite, évidemment, mais c'est là où se trouve l'apogée du culte de Jeanne d'Arc, où elle est revendiquée à la fois par la gauche républicaine. Jeanne vient du peuple et elle a été trahie par le roi et par la noblesse et brûlée par l'Église. Donc, c'est une héroïne républicaine. Et puis, d'autre part, revendiquée, évidemment, par la droite, par les catholiques, par les nationalistes, parce qu'elle s'oppose à l'envahisseur et elle est une fervente chrétienne fidèle à son roi. Et donc, il y a vraiment, sous la Troisième République, dans la première moitié de la Troisième République, jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'apogée du culte de Jeanne d'Arc, un culte au sens le plus large. Et puis, il y a la canonisation en 1920, qui arrive assez tardivement, à la fois parce que l'Église n'aime pas trop se déjuger, d'une part, et puis d'autre part parce que la France de la Troisième République n'entretient pas forcément de très bonnes relations avec le Vatican, surtout après la loi de séparation
de l'Église et de l'État en, voilà, 1905.
En 1905. Et de ce fait, la canonisation en 1920 va permettre le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège au sortir de la Première Guerre mondiale.
C'est ça, je pense que c'est parce que c'est au sortir de la Première Guerre mondiale que la canonisation a pu être acceptée, non pas par le Vatican, parce qu'ils étaient d'accord, mais par l'esprit français aussi, républicain.
Oui, je pense que c'est donc l'Église avait son propre calendrier. Finalement, le procès en canonisation, on peut dire qu'il a commencé dès la fin des années 1860, hein, et le début des années 1870.
Oui, parce qu'il y a béatification en 1909, je crois.
Béatification en 1909, et donc tout ça prend du temps. L'Église prend son temps, et puis évidemment, la Première Guerre mondiale a un petit peu interrompu les choses.
Eh bien, pour conclure, Philippe Contamine, pour ce personnage qui est après tout aussi très important pour notre histoire universelle, parce qu'elle nous permet de connaître, avec toutes ses sources à elle, nous permet de bien connaître le XVe siècle. Donc ça fait aussi partie de l'apport pour notre histoire de Jeanne d'Arc.
Incontestablement, nous avons voulu faire un livre d'histoire aussi complet que possible, en essayant, comme a dit Xavier Larry, d'aborder le personnage sous tous ses aspects, de le replacer dans son temps, dans son environnement à la fois matériel et culturel. Je dirais, nous avons voulu faire un livre d'histoire, incontestablement. Bon, nous sommes tous les trois historiens et c'est là-dessus que nous travaillons. Mais ce qui frappe chez Jeanne d'Arc, c'est qu'elle a donné naissance à des œuvres d'art. Et des œuvres d'art qui aujourd'hui sont quelquefois oubliées, dédaignées, méprisées, mais d'autres qui demeurent encore tout à fait intéressantes, captivantes et en un sens même admirables. Et je crois que parmi tous les personnages du Moyen-Âge français, il n'en manque pas, Charlemagne, Saint-Louis, Bayard, etc., c'est la seule qui finalement a donné lieu à des films, à des pièces de théâtre, qui a quelques œuvres d'art, statues, etc., qui aujourd'hui encore nous touchent. Et donc c'est cette conjonction, cette superposition d'une Jeanne historique, hein, la Jeanne dans l'histoire, c'est ce que nous avons voulu fondamentalement faire, et puis cette Jeanne qui est, disons, un sujet tout trouvé pour les créateurs, qui nous a paru finalement peut-être le plus fascinant dans les quelques années que nous avons consacrées à son étude.
Je voudrais préciser que la couverture de votre livre porte Jeanne d'Odilon-Redon. Et c'est un choix qui vous permet de voir une Jeanne spirituelle, ineffable, entre deux mondes, peut-être.
Voilà.
Merci, messieurs.
Merci. Merci.